mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir les journalistes du PIAF et les militants de Attaque.
Et nous sommes le 14 février. Le 14 février, tout le monde le sait, c'est la Saint-Valentin. Et pour ce thème si doux aux amoureux, nous allons évidemment parler, Jean-Marc.
Alors, j'avais pensé à faire une chronique sur les scooters, mais non, je vais faire une chronique encore plus romantique. Je vais faire une chronique sur l'avortement. Et oui, c'est la Saint-Valentin, il faut y penser. Il y a parfois des effets secondaires.
Et c'est d'actualité, bien malheureusement.
Et c'est d'actualité, bien malheureusement, en France, avec des petits plaisantins de la droite ultra-catholique qui veulent revenir là-dessus. Mais en Espagne, ce n'est pas qu'un simple fantasme d'ultra. C'est un fantasme du gouvernement espagnol qui cherche à mettre en place une loi limitant tellement l'avortement que ça revient pratiquement à le supprimer. Alors, ce projet de loi lancé par l'équivalent du garde des Sceaux en Espagne, qui est un ultra-conservateur proche des milieux épiscopaux espagnols, qui eux-mêmes ne sont pas réputés pour leur côté libéral et très ouvert, eh bien, est un projet de loi qui vise à tellement limiter donc les conditions d'accès à l'avortement que les délais seront très difficiles à tenir et que, globalement, il faudra passer devant deux médecins, deux psychiatres, une assistante sociale qui sera chargé de sermonner l'affreuse dame qui voudrait pratiquer un avortement, et le tout en l'espace de moins de 14 semaines, ce qui est le délai actuel de la loi espagnole. Alors, avec en plus à la clé des non-remboursements qui sont prévus, ce qui veut dire que globalement, on reviendrait à une situation qui serait pratiquement celle de l'époque de Franco, mis à part que ce ne serait plus criminel, et comme à l'époque de Franco, les femmes riches espagnoles pourraient aller en France ou en Angleterre ou en Suisse pour se faire avorter, et les Espagnols du tout venant, et c'est quand même la majorité, surtout après plusieurs années de crise, ben, n'auraient plus qu'à garder leurs enfants. Et le projet de loi, qui est vraiment sympathique et libéral, eh bien, prévoit que même pour des enfants mal formés, même après des viols, ce ne serait pas considéré comme automatique que d'accorder le droit à l'avortement. Donc tout ça est très très inquiétant dans ce pays qui a un passé déjà chargé au niveau religieux, au niveau politique et au niveau sociétal. Et c'est d'autant plus étonnant que dans ce contexte très particulier qui est l'Espagne, qui a quand même connu 40 ans de franquisme, eh bien les Espagnols sont extraordinairement majoritaires pour approuver l'avortement et être contre le projet de loi. C'est-à-dire que 86% des Espagnols sont contre le projet de loi gouvernemental. Et malgré cette levée de bouclier, des manifestations massives en Espagne, mais aussi dans toute l'Europe pour protester contre cette loi ignoble, eh bien le gouvernement espagnol s'entête et on est à la veille d'un vote solennel. Et là où ça devient encore plus extraordinaire, c'est qu'au sein même du Parti populaire, le parti du Premier ministre Martino Rajoy, eh bien qui est très conservateur, il y a quand même une majorité des électeurs de ce parti populaire qui sont contre le projet et qui sont pour l'avortement. 65%. Et à l'intérieur même des députés du Parti populaire, qui a la majorité absolue au Parlement espagnol, il faut le savoir, donc ils peuvent le voter tout seuls, une bonne partie des députés, dont certains sont quand même des femmes, il faut le rappeler, ne sont pas du tout d'accord avec ce projet. Ceci étant, à la suite d'une espèce de caporalisation du Parti populaire, beaucoup de députés qui sont pourtant totalement hostiles au projet d'IVG, de ce projet de loi anti-IVG, s'apprêtent à voter pour le projet gouvernemental, qui est une reculade de 35 ans.
Alors, cette reculade en Espagne fera-t-elle tache d'huile? On n'en sait rien, mais on peut quand même regarder de l'autre côté des Pyrénées ce qui se passe en France. Donc, depuis 1975, l'avortement est autorisé en France jusqu'à 12 semaines de grossesse, accessible pour les mineurs sans même l'autorisation parentale. Et c'est un droit que l'on croyait acquis, mais évidemment, on a encore chez nous des gens qui protestent contre ce droit acquis pour les femmes. Et dernièrement, on a discuté à l'Assemblée nationale, heureusement bien à l'envers de l'Espagne, vu que c'était pour faire progresser la loi, vu qu'il a été rayé de la loi de 1975, le fait qu'un avortement ne pouvait avoir lieu qu'en situation de détresse. Cette phrase a disparu, ce qui est donc une avancée législative pour le droit. Mais est-ce que ça suffit d'avoir un droit propre pour permettre l'avortement en France?
Alors, c'est tout le débat qu'il y a en France, mais en Espagne et dans d'autres pays où le débat n'est toujours pas clos, comme le Portugal ou l'Irlande. Mais il y a aussi une autre illustration, une autre question qui se pose en Espagne. Est-ce que cet entêtement absolument absurde du gouvernement espagnol, cette espèce d'outrance assumée, ne serait-elle pas aussi une manière d'essayer d'agiter un chiffon rouge à la société espagnole pour masquer la catastrophe totale de la situation de l'Espagne et l'incompétence absolue du gouvernement espagnol actuel, qui ne fait pas mieux que les socialistes qui l'ont précédé, mais qui fait même pire, puisque non seulement il ne fait pas mieux au niveau économique, mais qu'il brime au niveau social, il réprime policièrement. Et ce gouvernement espagnol ultra-conservateur, il est gangréné par une corruption massive, y compris le Premier ministre. Donc peut-être que au-delà du côté ultra-catholique et ultra-conservateur, il y a une volonté de politique politicienne de plus bas étage d'agiter un chiffon rouge à la société espagnole pour l'occuper et qu'elle ne conteste pas d'autres mesures, notamment économiques.
En France aussi, on pourrait parler de chiffon rouge parce que finalement, cette loi, même si on peut la voir comme quelque chose de positif, a eu peut-être le même effet. On a parlé de ça pendant des semaines. On a même glorifié le gouvernement quand on est quelqu'un d'accord avec eux. Alors que finalement, la vision économique de notre pays serait peut-être en grande discussion. Et même cette crise économique a des conséquences justement pour le droit à l'IVG. Aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il y a une baisse de service et de qualité du service public. Entre autres, il y a en moins de 10 ans, 5% des établissements publics et 48% des établissements privés pratiquant l'IVG ont fermé. C'est-à-dire 130 centres qui ont fermé en moins de 10 ans. L'offre de soins s'est donc concentrée de façon alarmante sur beaucoup moins de centres, avec comme conséquence des délais d'attente longs, l'impossibilité de choisir la méthode d'interruption de grossesse ou le type même d'anesthésie locale ou générale. Il y a évidemment des personnels en sous-effectif qui sont parfois même mal formés, ce qui peut entraîner évidemment des réflexions maladroites. Vous êtes en situation quand même difficile quand vous venez demander un IVG. On peut imaginer quand même que la personne qui vient a le droit à un minimum d'attention. C'est pas forcément possible dans des établissements où la pression est forte. Et on peut même aussi parler de remboursement, vu que le remboursement, s'il est aujourd'hui de 100% pour le forfait IVG, mais certaines échographies ne sont pas prises en compte, et il y a des frais supplémentaires pour ce qui est pourtant un droit. Et c'est souvent le parent pauvre des services hospitaliers. Ce sont parfois des praticiens qui ne veulent pas le faire parce qu'ils gagnent pas assez. Et même lorsqu'il y a un départ de médecins spécialistes de l'IVG, ils ne sont pas remplacés aujourd'hui. Alors tout cela peut laisser penser finalement, est-ce qu'il y a réellement un problème de l'IVG? Pourquoi est-ce que les gens en parlent? Alors on peut quand même leur donner une petite caution à l'autre côté, c'est que aujourd'hui, dans une vie en moyenne, une femme sur trois a recours à l'avortement pendant son existence. On a pratiquement 200 000 avortements par an. On peut imaginer que ce sont des chiffres impressionnants et pourquoi pas les cas de détresse qui sont cachés derrière. Alors évidemment, on peut pas imaginer de dire à tout le monde de les phrases comme fais attention ou autre ne s'appliquent pas à tous les cas d'individus et c'est aussi un droit de pouvoir penser et vivre librement. Néanmoins, il y a quelque chose qui existe en France depuis longtemps pour permettre la prévention, c'est le planning familial. Or, le planning familial a de moins en moins de revenus. Alors, ils sont souvent dépendants à beaucoup des subventions locales. J'ai pris par exemple le planning familial de l'Isère qui dépend à 80% des subventions de son conseil général. Et cette année, il y a eu par exemple une baisse de 5% du budget. Alors évidemment, le conseil général de l'Isère justifie pas une baisse donnée au planning familial, mais justifie en parlant de chiffres d'adaptation par rapport au nombre de consultations dans certains centres, etc., etc. La réalité, c'est 4 postes qui vont fermer en Isère pour le planning familial et un accès plus difficile pour celles qui veulent pouvoir accéder au conseil et au suivi. Alors, nous avons à peu près fait le tour de cette question. Il y a peut-être à revenir un peu dans l'histoire et se rappeler aussi qu'il y a eu quelques chansons révolutionnaires sur ce sujet. Et il s'était par exemple le cas de cette drôle de chanson qui était La Grève des Mères, qui est ici repris en version rock par Les Amis de ta femme.
Bonsoir. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militantes d'attaque.
Et nous venons parler des régressions du droit par rapport à l'avortement en Espagne, et en se posant la question, est-ce que ça va pas faire tache d'huile à travers l'Europe, et puis surtout même à travers toute la péninsule ibérique, vu qu'on a même des eurodéputées portugaises qui avaient soumis un rapport visant à permettre à toutes les femmes un accès aux services sûrs, et puis la loi a été totalement refusée par exemple. On peut se rappeler de cette phrase de Simone de Beauvoir qui disait: n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, on pourrait ajouter qu'en général, dans toutes les crises, ce sont les femmes et les étrangers qui prennent en premier. En Espagne, ce sont les femmes. En Grèce, ce sont les étrangers. Deux illustrations.
Deux illustrations qui font peur, et qui font tellement peur qu'on peut parler de lois liberticides dans certains pays, et on va encore reprendre l'exemple de l'Espagne.
Alors l'Espagne est décidément sur le fil du rasoir en ce moment, avec toujours ce même gouvernement Rajoy qui essaye de surnager sur la crise de la manière la plus scélérate qui soit. C'est-à-dire qu'à la place de chercher des solutions à la crise de l'Espagne, qui est l'une des plus profondes d'Europe avec celle de la Grèce, avec une misère sociale absolument incroyable qui se développe depuis des années maintenant, eh bien, ils sont impuissants totalement. Qu'est-ce qu'ils font? À la place d'essayer de faire des mesures sociales, il s'agit de réprimer le mouvement social. Ça a déjà été largement entamé avec des actions policières plus que musclées dans les derniers mois, mais ça ne suffit pas à ce gouvernement ultra-conservateur. Alors que fait ce cher garde des Sceaux, le même que celui qui a proposé les lois sur l'avortement? Il a proposé une série de lois qui s'appelle « Loi sur la sécurité citoyenne ». C'est très très beau, ça a l'air fantastique et très démocratique. Quand on regarde d'un peu plus près ce qu'il y a dans cette série de lois sur la sécurité citoyenne, on s'aperçoit que il y a une quasi-suppression de la liberté de manifester, c'est-à-dire que la liberté de manifester est soumise elle aussi à tellement de règles, même chose que pour l'IVG, on n'interdit pas officiellement, donc on garde les apparences démocratiques, mais on met tellement de bâtons dans les roues à la liberté de manifester que si on regarde les quelques dernières années de l'Espagne, pratiquement 90% des manifestations qui se sont déroulées en Espagne n'auraient pas pu avoir lieu si cette loi avait déjà existé. C'est-à-dire que pratiquement tout rassemblement spontané, tout rassemblement qui n'est pas parfaitement balisé par la police, avec l'autorisation de la police au lieu choisi par la police, serait interdite. Donc tous les mouvements sociaux plus ou moins spontanés qui ont eu lieu ces dernières années, qui étaient très intéressants, eh bien seraient totalement impossibles. Deuxième volet de ces lois liberticides, c'est que le gouvernement entend pénaliser de plus en plus. Alors là, il est très très fort aussi sur la communication, puisque d'un côté, il dit « on va arrêter de pénaliser ». C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de dispositions dans le code pénal espagnol qui permettaient d'arrêter des manifestants et de les envoyer devant les tribunaux pour les punir, leur donner des amendes, voire des peines de prison. Dans la réalité, la justice ne condamnait pratiquement jamais personne. Et d'ailleurs, avec toute la masse de manifestations des dernières années, il n'y a pratiquement pas eu de condamnation, malgré des dizaines de milliers d'arrestations. Alors, justement, le gouvernement ultra-conservateur s'est dit, on va faire très démocratique en apparence, on va supprimer la pénalisation par la justice, et on remplace par des peines administratives. Ce qui fait qu'on se passe des juges, et c'est la police qui va distribuer les amendes. Bien joué, bien joué. On a l'impression que comme ça, c'est plus pénal. Mais c'est encore pire, puisque c'est la police elle-même qui va choisir d'arrêter les gens et ensuite de leur donner des amendes. Donc c'est gravissime, puisque ça veut dire qu'on chante complètement la justice. Il n'y a plus de défense possible, puisque la police sera à la fois juge et partie. C'est qui est contraire à tout principe de droit de base et de liberté publique. Donc quelque chose de gravissime aussi. Et il faut voir aussi l'ampleur du délire de cette loi. Exemple, cette loi permettrait de punir de 30 000 euros d'amende la dissimulation d'un visage en manifestation. Alors, dans une manifestation, surtout avec la violence développée par la police espagnole ces dernières années qui utilise les gaz lacrymogènes à tour de bras, il n'est pas totalement étonnant de mettre un foulard sur le nez. Eh bien, vous êtes arrêté avec un foulard sur le nez parce que, justement, ça pique. 30 000 euros d'amende. Premier exemple. Deuxième exemple, très intéressant. On a fait dans toute la presse occidentale, Flores, et on a parlé beaucoup des printemps arabes en disant que c'était génial. Et que ces printemps arabes s'étaient servis des réseaux sociaux. Entre autres, grâce à ces réseaux sociaux, on avait pu montrer les exactions de la police tunisienne, de la police égyptienne, etc. Ce qui avait permis le développement de la révolution et le soutien international. Eh bien, le gouvernement ultraconservateur espagnol a trouvé la parade. 10 000 euros d'amende pour quelqu'un qui prend des photos, qui enregistre une vidéo avec son téléphone portable de ce que fait la police. On revient à l'époque de Franco, ni plus ni moins. La diffusion d'images, même si on ne les a pas prises, 10 000 euros d'amende et une peine de prison possible. Donc ça veut dire que non seulement on peut plus vraiment manifester, mais que tout ce qui permettait justement de lutter contre l'arbitraire, de lutter contre les dérapages policiers, devient quelque chose de grave et devient quelque chose qui financièrement est absolument intenable, surtout dans un pays où un habitant sur trois n'a plus de boulot.
Et ceux qui peuvent imaginer que cette loi sera refusée, par exemple, par un conseil constitutionnel au nom de la liberté individuelle, il faut penser que, par exemple, la loi sur l'IVG n'est toujours pas vraiment votée, mais elle a passé le cap de l'équivalent du conseil constitutionnel en Espagne. Donc, tout est possible pour cette loi liberticide.
Alors, sur la loi liberticide, il y a quand même des difficultés juridiques un peu plus fortes pour le gouvernement espagnol, justement parce qu'ils vont un peu trop fort dans la négation des libertés au niveau constitutionnel par rapport à l'Espagne, mais aussi par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il y a encore de multiples obstacles pour que cette loi soit prise, en tout cas en l'état, mais cela met une tension extraordinaire sur la société espagnole, et la police espagnole, qui avait tendance à déraper pas mal ces dernières années, là, un petit peu comme à l'époque où Sarkozy est arrivé au pouvoir en France, commence à se croire tout permis, ce qui n'est vraiment pas bon dans la situation actuelle de l'Espagne. Alors ça nous met dans une situation absolument incroyable dans ce pays, qui est une démocratie récente, il faut le rappeler, c'est une démocratie qui n'a même pas 40 ans. Ce sera 40 ans de démocratie dans un an et demi. C'est tout jeune, c'est tout frais. Et dans ce pays qui est une toute jeune démocratie, on a un gouvernement qui se permet de jouer justement sur des grandes manœuvres sociétales pour des raisons idéologiques ou pour agiter un chiffon rouge, mais dans les deux cas c'est ignoble et c'est très dangereux, qui se permet de jouer sur les libertés publiques en revenant à des fondamentaux du franquisme. C'est quand même très dangereux. Et c'est quelque chose qui pourrait se retrouver aussi de manière large en Europe.
Et donc en Europe, est-ce qu'on retrouve ces mêmes lois ou est-ce qu'on voit des montées de populistes ? Je crois malheureusement que tout le monde a la réponse en tête.
Alors, il y a deux réponses à ça. C'est que dans tous les pays d'Europe, on voit des gouvernements donc qui soit s'attaquent directement aux libertés publiques. C'est le cas par exemple en Hongrie ou en Espagne. On voit des gouvernements qui, tout en respectant la démocratie, s'arrangent pour dévitaliser le mouvement social, parfois de manière douce. C'est ce qu'on voit en France, avec des vrais faux débats qui permettent d'enliser le mouvement social et de ne pas avoir de débat réel sur le fond. Et quand ça ne marche plus, on agite des chiffons rouges sociétaux pour ne plus parler d'économie, ne plus parler de société. Ce sont des techniques différentes, mais finalement le but est le même, masquer la réalité d'un échec total de l'ultralibéralisme qui est présent partout en Europe, qui dirige l'Europe, l'Union européenne, mais l'Europe, le continent aussi. Et donc face à cet échec total et l'incapacité de ce système à sortir de la crise qu'il a lui-même créée, face à la montée massive du chômage, eh bien, on cherche des paravents idéologiques et qui sont parfois monstrueux.
Alors heureusement, il y a des moyens pour se défendre de cette finance au niveau européen. Et par exemple, nous allons écouter une petite intervention sur l'association Finance Watch.
L'idée de l'ONG, elle est partie d'un appel d'un groupe de parlementaires européens, une vingtaine, qui ont, en 2010, fait un appel à la société civile afin qu'elle s'organise pour monter une structure qui pourrait faire le contrepoids des institutions financières et donc de leur lobby très puissant dans toutes les discussions européennes sur les régulations bancaires et financières. Donc en 2011, on a été créé et on existe depuis à peine 2 ans. Et la niche de Finance Watch par rapport à d'autres organisations similaires, c'est qu'on est des anciens banquiers, ou la plupart d'entre nous sommes des anciens banquiers. Donc l'idée, c'était vraiment le banquier qui parle au banquier, le technicien qui parle au technicien, pour déjà pouvoir rentrer dans la discussion, avoir une certaine crédibilité et démonter certains arguments afin de faire en sorte que la finance serve la société et non pas le contraire.
Alors nous venons d'entendre parler d'une ONG, Finance Watch. Il y a beaucoup d'ONG qui, par contre, elles sont de l'autre bord et poussent à ce que la finance soit de plus en plus mondialisée, de plus en plus inhumaine. Et tous ces bons gens, ONG pro-capitalisme, tous les hommes politiques se réunissent pour faire du ski à Davos.
Oui, tout à fait, puisque en parlant de banquiers, ils ont effectivement cette réunion tous les ans à Davos. Alors cette année, c'était du 22 au 25 janvier, et l'ensemble de ces décideurs de ce monde. Alors les décideurs, c'est qui? C'est 1500 chefs d'entreprise, une quarantaine de chefs d'État, enfin ceux qui ont bien voulu venir. Et ces décideurs,
ce sont les JO en même temps. Ouais.
Voilà, c'était pas évident là, fallait quand même ajuster son agenda. Donc ils se sont réunis à Davos comme chaque année pour refaire le monde. Alors quand les décideurs refont le monde, souvent c'est toujours un peu le même. Alors ils sont réunis autour, on dit souvent autour d'un café, puisque c'est Jacques Attali qui avait eu cette phrase de dire que Davos c'était un peu la machine à café du monde. Donc voilà, ils se sont réunis autour d'un café. C'est un espèce de repas de famille, finalement, politico-financier. Et cette année, il avait pour thème « Remodeler le monde ». Alors, vous remarquerez que c'est pas changer le monde, hein, c'est le remodeler, c'est-à-dire modifier un peu sa forme, faire un lifting, le rendre un petit peu plus esthétique. Alors, surtout, ne pas s'attaquer aux causes profondes du caractère défectueux d'un système qui, pourtant, nous semble un petit peu à bout de souffle. Alors, ce qui semble ressortir de ces échanges pendant ces quelques jours, c'est un certain regain d'optimisme, selon la presse, des dirigeants de cette planète. Optimisme pourquoi ? Parce qu'il y aurait une reprise de la croissance dans certains pays, notamment aux États-Unis. Le banquier central du Japon l'a résumé ainsi. Il a dit « Nous pouvons être prudemment optimistes pour la perspective économique mondiale ». Donc voilà, l'ambiance à Davos, c'était un optimisme prudent. Alors, le dérèglement climatique, lui, s'accélère, les ressources naturelles s'épuisent, les inégalités mondiales s'aggravent. Il y a eu même un rapport d'Oxfam qui a été publié juste avant Davos, le 20 janvier, qui indiquait que les richesses du monde sont divisées en deux. Il y en a près de la moitié qui sont entre les mains des 1% les plus riches, et 99% de la population mondiale, quant à elle, se partage l'autre moitié.
Ouais, mais c'est une question de mérite, ça.
Voilà, c'est la méritocratie. Donc, la moitié de la population mondiale possède l'équivalent de la richesse détenue par les 85 personnes les plus riches du monde. Ça donne une idée un peu de l'état des inégalités dans le monde. Mais malgré ça, Davos retrouve le sourire. Donc, à l'heure actuelle, on se dit, pour trouver une source d'optimisme dans un spasme de croissance, il faut soit faire partie de ces 1% les plus riches de la planète, hein, je crois que c'est le cas de la plupart des participants de Davos, soit refuser de comprendre que la religion de la croissance, c'est pas la solution, mais plutôt une des sources du problème. Et ça, je crois que c'est aussi le cas d'une grande majorité des participants de Davos, manifestement. Pourtant, il a été prouvé depuis les années 70 que la croissance du PIB et l'empreinte écologique étaient intimement liées. Alors, l'empreinte écologique, c'est toutes les ressources naturelles dont on a besoin, tout ce qu'on consomme sur la planète pour assurer nos besoins, notre consommation. Et donc, cette empreinte écologique, ces impacts sont sans cesse plus forts à mesure que le PIB augmente. Il a été aussi démontré qu'au-delà d'un certain revenu par habitant, le niveau de bien-être d'une population n'augmentait que de façon extrêmement marginale. Donc aujourd'hui, à l'heure où on consomme l'équivalent d'une planète 8 pour nos besoins, que normalement autour du 21 août, l'ensemble de la planète a fini, enfin a consommé tout ce auquel elle avait droit. Il serait peut-être temps de se poser la question de quelle croissance, est-ce que c'est encore aujourd'hui soutenable de parler de croissance du PIB? La question ne devrait-elle pas plutôt être comment refondre le système économique mondial pour qu'il s'intègre dans les limites environnementales de la planète tout en permettant une meilleure redistribution des richesses? Et même le rapport sur les risques mondiaux qui a été publié dans le cadre de ce forum de Davos a reconnu que les risques économiques, sociaux, écologiques, géopolitiques sont interconnectés et susceptibles de déclencher à court terme, je cite, un choc systémique.
Un choc systémique.
Ce nom a été prononcé dans le rapport de Davos. Et pour faire face à ce fameux choc systémique, les dirigeants donc se réunissent tranquillement pour parler remodelage. Donc voilà, qui rend très optimiste. C'est un peu comme... Ça me donne envie de citer du Jacques Chirac, si je peux me permettre.
Allez-y, Chirac.
La maison brûle et pourtant le monde regarde ailleurs. Je dirais même la maison brûle et les grands leaders se demandent si ça va permettre de relancer le marché des extincteurs. Voilà.
Ouais, au 19e siècle, quand on consommait plus que ce qu'on avait, il y avait l'Afrique, la colonisation, et il y avait l'Asie quand l'Afrique a été complètement colonisée. Mais là, on reparle de Mars. C'est pas pour rien, il va falloir coloniser Mars.
Là, vous m'attristez en ce Saint-Valentin quand même, mais le monde s'aime. Écoutez par exemple Brigitte Fontaine, Pipo.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants de Attac.
Et surtout, nous avons Jean-Marc qui va nous parler des élections européennes.
Alors, pour rebondir sur toutes les belles choses que nous avons évoquées avec Davos, avec l'Espagne, avec la Grèce, eh bien, on peut aussi commencer à serrer les fesses sérieusement. Je parle de serrer les fesses, c'est pas parce que c'est la Saint-Valentin, bien sûr. On peut commencer à serrer les fesses sérieusement à propos des élections européennes qui vont avoir lieu, donc, bientôt. On constate, enquête après enquête et pays après pays, que dans les pays de l'Union, il y a une montée inquiétante des populismes et des mouvements réactionnaires qui fleurent le 19e siècle pour un certain nombre d'entre eux, avec certains qui s'appuient sur la religion, d'autres sur les traditions, d'autres sur la linguistique, voire sur la supériorité raciale. On y arrive, ça a l'air complètement déconnant de dire ça au 21e siècle, mais il y a des pays où on commence à reparler de supériorité. On pourrait croire que c'est terminé depuis 1945, le petit débile à moustache s'est fait sauter le caisson, mais non, ça ne suffit pas. Et on reprend et on recommence les mêmes bêtises, et parfois dans les mêmes pays. Alors, on a déjà évoqué tout à l'heure l'Espagne, on a évoqué la Grèce, où le parti nazi fait des prouesses en tuant des sans-papiers, des étrangers. On a déjà évoqué la Hongrie, où le gouvernement est un gouvernement d'extrême droite raciste, radical. Qui conduit à des horreurs, et l'Union européenne qui est incapable d'exclure la Hongrie et incapable de mettre au pas, malgré la Convention européenne des droits de l'homme, ce gouvernement hongrois. Alors on risque d'avoir une méchante gueule de bois à l'issue du scrutin européen, parce que dans un certain nombre de pays, l'extrême droite pourrait, sous une forme ou sous une autre, puisque justement ça, il y a des avatars très différents selon les zones de l'Europe, représenter un tiers des sièges du Parlement européen. Un tiers des sièges du Parlement européen, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une poussée justement de xénophobie, de traditionnalisme, de populisme, mais aussi parce que les gens sont tellement dégoûtés dans toute l'Europe qu'on risque d'avoir une abstention massive qui va creuser le lit de l'extrême droite. Moins qu'un vote d'adhésion et un pourcentage d'adhésion, ce ne sont pas 33% des Européens qui vont se retrouver fascistes du jour au lendemain, mais par contre, il y risque d'y avoir tellement d'abstention qu'on risque d'arriver à ces 33% qu'envisagent envisagent certaines études dans beaucoup de pays européens. Alors, il va peut-être falloir réagir un jour, peut-être mettre à la porte, effectivement, les parties usées, gangrénées par la corruption et par l'asservissement au capitalisme de Davos, et arriver à mettre dehors cette espèce d'amalgame entre l'extrême droite, les conservateurs, les ultralibéraux, les cubénis et autres dégueulasses qui font des quenelles à tour de bras.
Tu sais bien, Jean-Marc, et toi qui es enseignant, que avec un système d'éducation comme on a en France, nous allons pouvoir appeler à la sagesse toutes nos petites têtes, qu'elles soient blondes, brunes, rousses ou j'en passe.
Bah, les chemises sont brunes encore plus que les têtes, hein, dans cette Europe. Alors, on sait que si on veut fermer une prison, il faut ouvrir une école. Et le problème, c'est que notre ministre, qui a de très très beaux discours, sait tout ça. C'est un monsieur qui parle très très bien, qui a une culture très solide, Vincent Peillon. Pendant des années, il a été le monsieur éducation du Parti Socialiste, et pendant des années, il a été plébiscité par les enseignants, les fédérations de parents d'élèves, parce qu'il parlait très très bien et qu'il critiquait très bien les gouvernements de droite et les ministres dégueulasses de l'éducation nationale que la droite a su aligner. Sauf que le problème, c'est que Vincent Peillon est devenu ministre. Et entre le moment où il était dans l'opposition et le moment où il est devenu ministre, eh bien ça change. Les discours sont toujours très beaux. Vincent Peillon est quelqu'un qui parle très bien. Il a de très bonnes idées. Par exemple, il dit qu'il faut donner plus aux ZEP. Les ZEP, vous savez, c'est les zones d'éducation prioritaire, ces zones qui ont été créées il y a à peu près une vingtaine d'années, pour donner plus à ceux qui avaient moins, c'est-à-dire les zones défavorisées, leur donner un peu plus de moyens. Alors déjà, c'est relatif, parce que de réduction en réduction, les plus de moyens, c'était juste les moyens de survivre, de pas exploser totalement. Alors Vincent Peillon a dit, c'est totalement anormal. Il l'a dénoncé du temps de Sarkozy. C'est très beau, on a tous applaudi, c'était magnifique. Alors maintenant, donc, il est ministre. Il refait un discours, il refait un projet de loi pour refonder l'école. Alors, cette refondation, il faut plus de justice. Magnifique. On est tous d'accord. Plus de justice, ça veut dire donner plus à ceux qui ont moins.
Bien sûr.
Tous d'accord. Donc, grand renfort de communication gouvernementale, on annonce partout dans la presse que il va y avoir plus de moyens pour les ZEP, qu'on va aider les ZEP, que les profs vont avoir des décharges horaires, pour pouvoir travailler mieux, pour pouvoir s'occuper mieux des parents, pour pouvoir s'occuper mieux des élèves, et qu'il va y avoir plus d'heures. Magnifique. Qui peut être contre un projet pareil? Magnifique. Sauf que la réalité du terrain est un tout petit peu biaisée. Alors, on prend un exemple, au hasard, le 93.
Le 93, c'était pas lui qui était dans la rue hier pour protester, justement?
Ouais, mais bon, c'est des excités, c'est les banlieues zones, quoi.
Ah, d'accord.
Ouais, c'est pour ça. Alors, le 93, pourquoi le 93? C'est l'une des trois zones les plus sinistrées de France, au niveau social, au niveau du retard scolaire. Donc, au hasard, on prend 120 collèges. Pourquoi les collèges? Parce que c'est là que va se passer le pire de la catastrophe. On donne un petit peu à l'école primaire, parce qu'il y avait vraiment du retard. Les lycées, on n'y touche pas trop, parce qu'il faut quand même l'excellence du bac. Alors, où est-ce qu'on prend? Ben, on prend dans les collèges. 120 collèges dans le département. Sur ces 120 collèges, pratiquement tous en ZEP. Il y a une écrasante majorité, 80% des établissements étaient des ZEP. Après la réforme, cette superbe réforme qui doit donner plus à ceux qui ont moins, il reste 6 ZEP. 6 vrais ZEP. Le reste, ce sont des ZEP de nom, mais qui n'ont plus les moyens. Donc, on va déshabiller à peu près 110 établissements pour donner quelques heures, insuffisantes de toute façon, à 6 établissements. Voilà le tour de passe-passe de la communication gouvernementale. On annonce un grand plan de renforcement des ZEP sur plus de 100 ZEP en Seine-Saint-Denis. Il y en a 6 qui seront vaguement avantagés. Et encore, dans les 6, il y en a même 2 qui étaient en grève hier, parce que, non seulement par solidarité, mais pour dire que même en étant dans les 6 élus, ça suffisait pas. Alors, c'est quand même faramineux. Dans un département qui est donc le plus sinistré au niveau scolaire, le plus sinistré au niveau social, et dans lequel, en plus, il y a une montée démographique. Une poussée démographique. Pourquoi il y a une poussée démographique dans le 93? Parce que c'est le département des pauvres. Or, en France, il y a de plus en plus de pauvres. Donc, où est-ce qu'ils vont? Dans le 93. Et ils vont garnir des écoles qui sont déjà en difficulté. Alors, le tour de passe-passe numéro 2, on dit qu'on va donner des moyens aux ZEP, on fait sauter le verrou des ZEP. L'un des verrous, c'était 24 élèves par classe maximum pour pouvoir arriver à enseigner. C'était déjà trop. Et ben là, on va arriver à 27-28 dans des établissements qui étaient ZEP, voire zone sensible. C'est-à-dire les grosses ZEP, le niveau au-dessus. Alors, pourquoi? Ben, on va supprimer les classes. Il y a une augmentation démographique. C'est le département le plus sinistré de France. On supprime des classes. Et des classes pas importantes, par exemple des sixièmes. On sait que c'est la base de tout le collège. Si on loupe la sixième, on loupe tout le collège. Eh ben, partout, on a des suppressions de sixième. Et on va faire ces suppressions grâce à des augmentations d'effectifs. Et puis, il y avait eu des effets d'annonce aussi du gouvernement sur les embauches de profs. À l'arrivée, le peu d'heures qu'il y aura en plus, par exemple dans les CISEP, ça sera fait en heures supplémentaires. Aucune embauche. Zéro embauche. Alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on va inverser la courbe du chômage. Il faut quand même chercher l'erreur. Alors là aussi, c'est très drôle pour le 93 pour une autre raison. Le 93 a une autre particularité, c'est qu'il y a le 93 est un département très peuplé, très dense, donc il y a beaucoup de députés. Il y a 12 députés. Et sur 12 députés, il y en a 9 qui sont du Parti Socialiste, qui ont donc voté la loi d'orientation scolaire. Parmi ces 9 députés, il y en a quand même 4 qui sont en même temps conseillers généraux, donc qui s'occupent du département. Il y en a un qui est en même temps vice-président chargé des collèges.
Mais qui est-ce donc que cet individu?
Et ce monsieur, qui est donc député socialiste, qui a voté la loi, il est complètement schizophrène. Parce que d'un côté, il vote la loi, il soutient le gouvernement, comme un seul homme. Et de l'autre, en tant que vice-président du Conseil général, il est forcé de dire qu'il y a un truc qui va pas. Mais il continue à soutenir le gouvernement. Et puis, dans les 9 députés, il y en a...
Mais il a pas le temps de s'occuper des dossiers. Il est quand même aussi candidat à la mairie de Saint-Denis. Il faut
ouais, et puis
n'oublie
il est en week-end le jeudi.
Titres.
Donc. Alors, il y en a un autre qui est intéressant, c'est l'ancien président du Conseil général. Il n'est pas passé n'importe où, il n'est pas passé à la trappe. Il est le président de l'Assemblée nationale, numéro 3 dans le protocole de la République. Il n'a aucune influence sur les lois, monsieur. Il ne peut pas téléphoner au Premier ministre pour dire « le ministre de l'Éducation déconne complètement ». Non. Alors lui aussi, il est schizophrène. Il fait une tribune dans un journal pour dire que ça ne va pas. Et de l'autre, il fait voter la loi. Puis il y a un troisième schizophrène en règle. C'est un monsieur qui fait partie des bons cumulards socialistes, puisqu'il est député, conseiller général, maire. Et il est en même temps le chef du groupe socialiste à l'Assemblée, Bruno Leroux. Lui non plus, en tant que chef des députés socialistes, il n'a pas d'influence sur la loi. Il n'a pas d'influence sur les budgets. Donc on est dans une situation grotesque. Mais il faudrait peut-être que le gouvernement se rappelle que, sous Jospin, autre gouvernement socialiste, un ministre de l'Éducation qui s'appelait Claude Allègre avait cru tout pouvoir se permettre parce qu'il était socialiste, que les profs n'allaient pas bouger, que les parents n'allaient pas bouger. Et Allègre a été mis à la retraite anticipée grâce aux enseignants. Il n'a jamais fait de carrière politique depuis, même en essayant de se vendre à Sarkozy. Et finalement, sa réforme n'est jamais passée.
Il n'avait pas visé spécifiquement le 93, qui saura peut-être se réveiller lui aussi. Et en parlant de fonctionnaires, tu n'avais pas fait un petit calcul assez rigolo par rapport à ces fameuses économies à venir du gouvernement ?
Alors oui, justement, on fait des économies, on peut pas trouver d'argent pour les profs parce que ça coûte trop cher, on peut pas trouver d'argent dans les hôpitaux, les urgences sont plus gérées ou sont fermées en pleine nuit parce qu'il y a plus personne pour les gérer, et en même temps, on fait des cadeaux aux patrons. Je parle même pas du pacte de compétitivité, il est pas encore chiffré, on connaît pas encore le périmètre. Mais si on prend l'une des mesures déjà en place du gouvernement soi-disant socialiste que nous avons, c'est le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt devait être un système faramineux qui allait encourager la croissance, cette fameuse croissance qui sert à rien, et encourager donc avec la croissance l'emploi. On a vu comme ça a bien inversé la courbe du chômage. Alors, coût de ce crédit d'impôt, en 2013, 13 milliards. 13 milliards de chute dans le budget de l'État. Alors qu'on nous annonce qu'il va falloir en trouver 50 quand même. Deuxième prévision, 2014, ça devrait coûter 20 milliards. 7 milliards de plus qu'en 2013. Alors 20 milliards, 13 milliards, tout ça c'est parfaitement abstrait, on se rend plus très bien compte avec des montants pareils de ce que ça représente. Alors petit calcul comme ça à la louche. On va prendre le revenu moyen d'un fonctionnaire moyen, catégorie B ou C, on arrive à 1 700 €. 1 700 €, c'est déjà une moyenne supérieure dans la fonction publique. On multiplie par 3 pour avoir le coût réel du fonctionnaire, entre les charges sociales et le coût de pension prévisionnel. Ça fait 5 100 €. 5 100 €, 61 200 € par an. Si je divise, petite division, hein, on avait parlé d'école, donc on va faire les 4 opérations, les 20 milliards par le coût d'un fonctionnaire, eh bien on pourrait embaucher 327 000 fonctionnaires au salaire médian des fonctionnaires. 327 000 fonctionnaires, ça permettrait peut-être de faire tourner les hôpitaux et l'éducation.
Mais oui, mais tu parles encore de guerre, de grève, etc. Mais c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et moi, j'aime pas les gens heureux. Eddie Mitchell.
sur 106.3, Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants de Attac.
Et à propos d'ailleurs du PIAF, le prochain numéro, numéro 69, est disponible sur le site internet du PIAF, www.tradeunionlepiaf.org, et le sommaire.
Alors, ce mois-ci, avec tout nouveau d'austérité, évidemment avec un dessin où on voit François Hollande qui boit de la Badoit et qui nous souhaite ses voeux, un article, l'idée qui vaut 360 milliards.
Qui est tiré d'une brochure d'Attac pour rappeler qu'il y a 360 milliards facilement trouvables.
Voilà, après deux articles sur les Jeux Olympiques en Russie, de Moscou à Sochi, et l'olympisme, une joie dans l'effort. Ensuite,
que je vais détailler tout de suite après.
Tout de suite après. Un article, Remodeler le monde, toujours de Magali.
Qu'on vient d'écouter sur Davos.
Très prolixe. Oui.
Voilà, un magnifique horoscope 2014.
C'est bien l'horoscope, pas l'horoscope.
L'horoscope, oui, exactement.
Parlons des altérités des députés européens.
Exactement, et qui nous montre les traits de caractère un petit peu de ces personnalités qui... soit balance, soit poissonne, soit gémotise ou soit cancérise. Voilà. Échec en rafale, hein. Toujours sur le...
Sur les rafales, sur les ventes sur les... ratées de Dassault à répétition.
Mais comme son immunité a sauté, on va en savoir plus.
Un article sur la publicité, l'oppression d'un faux bonheur.
Qui reprenait l'émission de la dernière fois, il y a un mois.
Voilà. Fais ce que je dis, pas...
ce que l'on fait... qui essaye de nous rappeler la morale que nous serine notre cher Parti Socialiste.
Voilà, revendez vos cadeaux, évidemment, après Noël. Et puis, un article sur le prix Pinocchio, qui décernait les mensonges, décernés par les Amis de la Terre. Voilà.
Et parmi ces articles, il y avait une chronique sur les Jeux Olympiques de Sochi, Magali.
Oui, ben j'imagine que vous êtes bien sûr tous devant vos écrans de télévision en ce moment pour suivre cette passionnante épopée olympique. Je voulais
quand
même rappeler...
C'est pour ça qu'on dit qu'il y a de la neige dans le poste.
Voilà. Et je voulais quand même rappeler que les Jeux de Sochi ont déjà permis de battre un record, celui de la facture la plus lourde de l'histoire des Jeux Olympiques, avec 36 milliards d'euros dépensés. Alors c'est, pour vous donner une idée, 5 fois plus que le budget initialement annoncé. C'est je ne sais combien de fois plus que les Jeux de Vancouver qui avaient coûté 1,4 milliard d'euros. Hein, au regard des 36 milliards de Sochi, c'est quand même beaucoup plus modeste. Et pour vous donner une autre idée, l'autoroute Sochi qui relie Sochi au site des compétitions de ski, à elle seule, elle a coûté l'équivalent du budget des Jeux Olympiques de Vancouver. Donc c'est quand même pas mal. Alors on peut se dire super, ce budget aura permis.
C'est au moins 25 voies dans chaque sens, non?
Voilà, on pourra dire c'est bien, ce budget dépensé aura forcément relancé l'économie locale, aura servi à quelque chose. Malheureusement, il faut savoir que ces projets pharaoniques, alors j'en cite quelques-uns pour le plaisir, un aéroport flambant neuf, deux gares, 200 km de voies ferrées, 400 km de réseau routier, 77 ponts, des hôtels, etc. De quoi créer beaucoup d'emplois, n'est-ce pas? Et justement, ces emplois, ils ont été pour la plupart pourvus par les plus pauvres de la région, venus d'Arménie ou d'Asie centrale, qui travaillaient souvent 12 heures par jour, qui étaient payés en moyenne 1,5 euros de l'heure quand ils étaient payés. Certains se sont vus confisquer leur passeport, d'autres n'avaient pas de contrat de travail. Enfin bref, un désastre social, sans parler des conditions de sécurité déplorables sur les chantiers.
Alors, mais au moins, c'est des jeux sans PD. Hein.
Alors oui, bien sûr, on va peut-être revenir aussi sur ce point, mais juste quand même pour signaler que la plupart, enfin une grande partie de ce budget a aussi malheureusement... servi à d'autres choses, puisque certains se sont largement enrichis grâce à ces montants astronomiques. Alors, quelques exemples, là aussi, ce ne sont que des exemples parmi d'autres, hein, mais la piste de curling, par exemple, a coûté très cher, et le président de la Fédération russe de curling, bizarrement, est le fils de la société qui a construit la piste de curling. Et qui est aussi, cet homme-là est aussi, bien sûr, membre du Parlement russe.
C'est pas de la corruption, c'est de l'efficacité.
C'est très efficace, Russie. Voilà. Bah, c'est un capitalisme assez familial, hein, finalement, en Russie. Alors, le stade de biathlon a fait l'objet d'un appel d'offres. Une seule entreprise a répondu. Elle est dirigée par l'ancien moniteur de ski de Medvedev. Intéressant. Et puis, on peut citer encore Arkady Rotenberg, un homme d'affaires proche de Poutine, dont 5 de ses sociétés ont participé à 20 chantiers de Sochi.
Ça laisse penser que toute organisation en Russie bénéficie de ce genre de fonctionnement. C'est juste parce que là, les Jeux Olympiques, on met une caméra dessus, donc on sait ces chiffres.
Oui, effectivement, on peut se dire que c'est largement le cas en Russie. Mais là, les chiffres étant astronomiques, le scandale l'est encore plus et encore plus visible, effectivement. Alors, on pourrait se dire, ce serait peut-être intéressant que les médias... Alors les médias se sont quand même intéressés à la question, mais on aurait pu penser que les jeux soient un peu plus boycottés, qu'on fasse appel au boycott, mais je crois qu'il faut être raisonnable. La Russie fournit beaucoup de gaz aux Européens, sans doute était-ce là une affaire un peu plus sensible qu'en 1980.
Eh bien, nous finissons là les chroniques et nous terminons l'émission par l'agenda des mois à venir, Boris.
Alors voilà, on va commencer avec une pièce de théâtre présentée par la compagnie ADA. Bienvenue dans l'angle alpha d'après Le capitalisme, désir et servitude, Marc Espinosa de Frédéric Lordon. Alors, c'est une adaptation et mise en scène de Judith Bernard. Ce sera le mardi et mercredi à 21h jusqu'au 26 janvier au théâtre de Ménilmontant, 15 rue du Retrait, Paris 20e.
Ensuite, il y a une projection débat sur du film Les Jours Heureux de Gilles Perret qui est organisé par les Amis du Monde Diplomatique 78. Ce débat sera conduit par Raymond Macherel, chroniqueur au mensuel Regard, et Annie Lacroix-Rise, historienne. Ce film sera projeté le 15 février à 20h30 au cinéma Le Roxane, 6 rue Saint-Simon à Versailles.
Alors, toujours cinéma, Main brune sur la ville, un film de Bernard Richard, 90 minutes. Pourquoi des citoyens accordent-ils leur confiance à l'extrême droite et comment celle-ci se maintient-elle au pouvoir? Alors, dans la France de la poussée du Front National, analyse sur les quelques villes qui ont été gérées par le Front National, leur programme, leur budget, leur idéologie, leur communication. Alors, c'est le dimanche 16 février à 16h au lieu dit, 20e arrondissement, 6 rue Sorbier.
Toujours cinéma, Profession journaliste est un film de Julien Desprez qui nous parle de qu'est-ce qu'un journaliste aujourd'hui, revient sur l'histoire du journalisme et par le biais de témoignages contemporains, propose une réflexion sur l'état de la profession. La projection du mardi 18 février à 19h30 à la Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e arrondissement de Paris sera suivie d'un débat organisé par Attaque 11e.
Alors, un débat, partenariat public-privé, une alliance contre nature. Les partenariats public-privé, PPP, ont été récemment mis au cœur de l'actualité lors de la manifestation contre l'écotaxe. Donc, un débat avec Hélène Rio, membre du conseil scientifique d'Attaque, le mercredi 19 février à 19h30, à la Maison des associations du 13e arrondissement, 11 rue Caillot. Plus d'infos sur le site d'Attaque France.
Le film québécois « Printemps durable » sera, lui, projeté le 19 février à 20h à l'École normale supérieure, 45 rue d'Ulm dans le 5e. Il traite de la question de la grève étudiante de 2012 au Québec et il sera suivi également d'un débat.
Alors, Notre-Dame-des-Landes, tous et tous à la manifestation de Nantes le 22 février 2014. Donc, l'État et les pro-aéroports menacent de passer de nouveau en force. Donc, il faut aller massivement à cette manifestation le 22 février à Nantes. Alors, il y a un départ organisé par Attaque à 6h30 Place de la Nation. Tarif 40€ et vous allez sur le site d'Attaque pour réserver et pour envoyer vos chèques.
Le lundi 24 février à partir de 17h, il y aura un débat public sur la gauche européenne avec différents débats sur qu'est-ce que les social-démocraties et que peut faire la gauche radicale sur le temps long, sur le long terme j'imagine. Ça sera donc le lundi 24 février à l'espace Niemeyer, 6 avenue Mathurin-Moreau à Paris 19e.
Attaque 12e organise un débat également sur la compétitivité, une fin en soi. Le mardi 25 février à 19h30 à la Maison des Associations du 12e arrondissement, 181 rue Doménil, Paris 12e.
Enfin, il y aura une rencontre Île-de-France de décroissance parti pirate avec Jean-Luc Pasquinet, tête de liste d'Europe décroissance aux prochaines élections européennes, Christian Giotti d'Île-de-France décroissance et candidat sur la liste Mosaïque menée par le parti pirate pour les municipales dans le 10e. Et ça aura lieu vendredi 28 février à 19h au café Le Vieux Saumur, 10 rue de Belleville, dans le 20e.
Alors, la gauche face à la crise capitaliste et l'Union européenne, l'expérience grecque. C'est donc une journée de débat et de conférences. Ça aura lieu le dimanche 2 mars à partir de 10h à l'école normale supérieure, toujours, donc 45 rue d'Ulm, salle Dusan.
Une réunion débat avec l'économiste Thomas Piketty sur le sujet « Le capital au XXIe siècle » est organisée par les Amis du Monde Diplomatique le jeudi 13 mars à 20h, toujours à l'École Normale Supérieure, et ça sera la salle Dossan.
Et une conférence débat organisée par Attaque 15e avec Frédéric Vial, que nous avons reçu ici, sur le grand marché transatlantique, piège pour la démocratie, le mardi 25. À 20h, 17 rue du Havre, Paris 15e.
Et ce qui termine l'émission d'aujourd'hui, nous remercions Magali, Jean-Marc, Boris, Claude à la technique.
Et
pour finir l'émission, et merci, et nous terminons l'émission en écoutant Herbie Hancock, Watermelon Man.